Ok, donc effectivement, je suis Olivier Rouchon, je suis le responsable du département archivage et diffusion au CINES. Je vais essayer de vous montrer, maintenant qu'on a eu un aperçu du paysage réglementaire et quelques retours d'expérience, dans quelle mesure un organisme de l'enseignement supérieur et de la recherche peut vous aider, peut vous accompagner dans votre démarche de conservation d'archives et d'archives électroniques en particulier. Donc le CINES, c'est le Centre informatique national de l'enseignement supérieur. Nous sommes situés pas très loin d'ici, à Montpellier. Le CINES existe depuis un peu plus de 35 ans. Il ne s'appelait pas comme ça à l'origine. Il s'appelait le Centre national universitaire sud de calcul. Donc comme son nom l'indique, la mission initiale, c'était le calcul intensif. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec cette... ce domaine-là. Le calcul intensif, qu'est-ce que c'est ? C'est fournir des moyens informatiques aux chercheurs pour faire de la simulation numérique. Alors la simulation numérique se fait surtout dans les sciences dures. En SHS, ça se fait un petit peu moins, même si avec l'intelligence artificielle, on y vient de plus en plus. Mais juste pour vous donner un ordre d'idée, la simulation numérique, depuis 30 ans, c'est ce qu'on appelle le troisième pilier de la science. Alors quels étaient les deux premiers piliers ? Le premier pilier, c'était la théorisation. Un chercheur a une idée, une théorie, et il s'appuyait à l'époque sur le deuxième pilier qui était l'expérimentation pour prouver que cette théorie était vraie ou fausse. Donc en gros, on faisait des expériences en laboratoire, en extérieur. Des fois, ça pouvait s'avérer coûteux, difficilement reproductible, dangereux lorsqu'on manipule des produits chimiques ou des choses comme ça, difficilement reproductible par exemple lorsque vous envoyez un satellite pour prendre des photos. Des fois il peut prendre les photos une fois tous les 80 ans. La reproductibilité de l'expérience, c'est pas... Et puis des fois les expériences sont désormais interdites. Aujourd'hui on fait plus sauter une bombe nucléaire pour montrer que l'atome est fissile. D'accord ? Donc on s'appuie sur des outils informatiques pour faire de la simulation d'expériences qu'on menait autrefois en laboratoire ou en extérieur. Sauf que, enfin, le fait de recourir à l'outil informatique, ça donne un panel de possibilités beaucoup plus grand. Et du coup, ces simulations, on ne les fait jamais avec un ordinateur tel un ordinateur de bureau, portable, etc. Parce que si on le faisait avec ça, ça prendrait des jours, des semaines, des mois. Et s'il y avait un incident pendant ce laps de temps, eh bien, il faut reprendre la simulation à zéro. Donc pour ça, on a des supercalculateurs. Vous en avez un en photo ici, qui sont l'équivalent de 40, 50 000 ordinateurs qu'on monterait en série. Voilà. Et donc les chercheurs viennent au CINES faire de la simulation sur la climatologie, l'environnement, la biologie, la génétique, des choses comme ça. La deuxième activité qu'il y a au CINES, c'est l'archivage pérenne, ça je vais vous en parler tout de suite, ce sera l'essentiel de la présentation. Et puis il y a une troisième activité qui est l'hébergement d'équipements informatiques. En gros, je vous montrerai tout à l'heure, on a quelque chose comme 1400 m² de salle machine, et en fait, on fait de la location, tout simplement, de mètres carrés, alimentés, refroidis, secourus, pour des institutions de dimension nationale qui voudraient héberger leurs équipements chez nous. C'est le cas de l'INSERM, c'est le cas de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, des choses comme ça. Alors, je ne vais pas reprendre... toute la problématique de l'archivage électronique. Juste, vous avez vu tout à l'heure la théorie des trois âges, etc. Il ne faut pas perdre de vue que lorsque c'est de l'archivage à très long terme, on parle de sans limitation de durée. C'est-à-dire qu'une archive peut avoir un sort final qui est la destruction, auquel cas la question ne se pose pas, même si la durée de conservation peut être de plusieurs dizaines d'années. Et conserver un document électronique pendant plusieurs dizaines d'années, il y a déjà un petit problème. Mais lorsqu'on parle sans limitation de durée, des centaines d'années, là on tombe dans quelque chose d'encore plus problématique. Et si on ne met pas en place une démarche de qualité autour du document numérique, ben, on va avoir des petits soucis. Des petits soucis, pourquoi ? Parce que sur du très long terme, on ne va plus savoir ce qu'il y a dans les documents. D'accord ? S'il n'y a aucune métadonnée descriptive, ben, vous avez un fichier qui s'appelle toto.txt, je vous mets au défi de me dire ce qu'il y a dedans. De la même façon, le format du fichier peut ne plus exister. Je me rappelle, lorsque j'étais à l'école d'ingénieur, les rapports de stage, on les faisait avec du Word Perfect, Sprint, des choses comme ça. Ce sont des logiciels de traitement de texte qui n'existent plus aujourd'hui. Donc comment je fais pour relire mon mémoire de stage aujourd'hui? Troisième problème, les supports de stockage. Les supports de stockage qui évoluent, qui se détériorent pendant leur utilisation, voire qui disparaissent. Je crois que j'ai un peu plus loin, voilà. Les méthodes qu'on utilisait autrefois pour transmettre l'information avec un modem, des disquettes souples, 8 pouces, 5 pouces un quart, 3 pouces et demi, un vieux Mac. Voilà. Si vous avez stocké des informations sur ces types de supports, ça va être un petit peu compliqué de les relire. Donc le principe de l'archivage numérique à long terme, c'est d'apporter des solutions pour minimiser l'impact de ces risques le jour où ils vont se produire. Parce que si vous avez fait un document sous WordPerfect qui s'appelle Toto et que vous l'avez mis sur une disquette 5 pouces un quart, là vous êtes mal. Si vous n'avez rien fait, vous êtes mal. Donc le CINES peut vous aider là-dessus. Le CINES va vous aider à continuer à lire un document, même si son format, son aspect change au cours du temps. D'accord ? Aujourd'hui, si vous déposez un document au CINES, dans 40 ans, il ne sera peut-être pas au même format. Il aura changé. Mais par contre, l'information sera toujours là. Ce qu'on vous garantit aussi, c'est l'intégrité. C'est-à-dire que votre document ne va pas être altéré au cours du temps. Un fichier, en fait, c'est un train de bits. Des 0 et des 1 qui suivent et qui constituent le fichier. Ben, on va vous garantir que ce train de bits n'évolue pas au cours du temps, sauf lorsqu'on fait des conversions de format, bien entendu. Mais encore, lorsqu'on fait ces conversions-là, on garde toujours le fichier initial et donc on peut toujours retomber sur nos pattes. D'accord ? Et puis, on va garantir qu'on comprend le contenu du fichier. On sait ce qu'il contient, on sait où le trouver et on arrive à comprendre son contenu. Je ne reviens pas sur le contexte légal, le fait qu'il faille s'adresser aux archives départementales, nationales, sur le dépôt des publications. Juste pour vous dire que le CINES, c'est le Centre National d'Archivage des Thèses. En gros, un doctorant, lorsqu'il passe sa thèse de doctorat, il soutient sa thèse et son mémoire de thèse, selon qu'il est adossé à une école doctorale qui est au tout numérique ou au tout papier, il va déposer sa thèse électronique à l'agence bibliographique de l'enseignement supérieur qui va ensuite le déposer au CINES. Et donc le CINES est chargé de la conserver pour toujours. On disait ad vitam aeternam un peu plus tôt. Il y a quelques documents qui échappent au contexte que vous voyez en haut de l'écran, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, lorsque un document électronique est une une numérisation d'un original papier. Donc là, dans ce cas-là, l'établissement peut choisir d'en confier la préservation au CINES directement. Donc cette mission au CINES, elle date de 2004. Je vous parlais de l'arrêté pour la conservation des thèses qui date de 2006. Plusieurs décisions ensuite du ministère et l'ajout notamment de l'archivage pérenne dans les statuts du CINES. Donc c'est vraiment notre cœur de métier depuis 2014, je crois, quelque chose comme ça. Et donc c'est depuis cette période-là qu'on essaye de mettre en place une plateforme d'archivage pour la communauté enseignement supérieur recherche qui soit à la fois sécurisée, performante, mais surtout économique et donc mutualisée. C'est-à-dire que la plateforme d'archivage du CINES, elle va être partagée entre plusieurs institutions différentes qui viennent déposer leurs documents chez nous. Bon, je ne reviens pas sur la chronologie des événements, juste pour vous dire qu'il y a eu plusieurs versions successives de la plateforme, donc rien qu'en quelque chose comme 14 ans de temps, on a eu 3 versions différentes de la plateforme. C'est des évolutions sans changement majeur, mais en gros, on a déjà changé le matériel informatique qui sert à accueillir les documents plusieurs fois, on a augmenté la capacité de stockage, on a rajouté de nouvelles fonctionnalités, des choses comme ça. Et c'est pas fini. Donc tout ça pour donner un ordre d'idée que si votre institution veut monter son propre service d'archivage électronique, il y a des choses qu'il vaut mieux penser dès le départ, puisque nous, au CINES, le département que je dirige, c'est 12-13 personnes qui travaille exclusivement sur cette activité-là. Alors, quel type de documents on peut archiver au CNES? Bon, on a parlé des thèses, ça c'est parce qu'il y a une loi qui impose qu'on archive les thèses électroniques chez nous. Il y a des publications scientifiques lorsque elles sont issues de numérisation. Vous verrez après, il y a une diapo avec la liste des organismes qui archivent chez nous. Ben, on archive par exemple les revues numérisées par Percé. D'accord ? Donc il y a eu un dépôt légal à la BNF de la version papier de ces publications qui sont ensuite numérisées par Percé, qui pour avoir quelque part un retour sur investissement, parce que ces programmes de numérisation sont extrêmement coûteux. On ne va pas s'amuser à numériser une revue pour la perdre ou la voir disparaître 15 ans, 20 ans, 30 ans après. Donc pour préserver quelque part cet investissement, ben Percé vient archiver ces publications numérisées au CNES. On peut aussi faire l'archivage intermédiaire de données administratives, données de gestion. Alors ça, je vous montrerai après. C'est parce que le CNES a obtenu un agrément du service interministériel des archives de France pour se substituer à un organisme public et conserver ses archives intermédiaires. D'accord ? Donc en gros, l'établissement conserve ses archives courantes, ce que vous avez vu tout à l'heure. Au moment où elles doivent passer, pour reprendre l'image du bureau à l'armoire au fond du couloir, ben il est possible d'en confier la gestion au CNES. Et donc le CNES va les conserver jusqu'à la fin de ce qu'on appelle la durée d'utilité administrative, ou après, en fonction du sort final, soit on va les transférer aux archives nationales, soit on va les détruire. On conserve aussi tout ce qui est résultats de calcul et données brutes de simulation. Alors, on est bien placé pour ça parce qu'on est à l'origine de leur production au CNES avec nos calculateurs. Il faut savoir que pour une année de simulation numérique, on produit quelque chose comme 5 pétaoctets de données. D'accord ? Donc, au bout d'un an, le chercheur est censé repartir avec ses données. Ce n'est pas forcément facile, surtout qu'il lui faut en général un peu plus de temps pour les évaluer et savoir celles qui ont un intérêt à être préservées sur du long terme et celles qui peuvent être détruites. Il faut savoir que dans de nombreux cas, aujourd'hui, une publication dans une revue scientifique doit être assortie de la disponibilité des données qui ont permis la rédaction de cet article. Donc la question du stockage et la conservation des données brutes de recherche sont également importantes. On archive aussi des images et des vidéos, notamment des images satellites, par exemple, ou des vidéos qui sont la captation d'une expérience ou même d'une conférence. À l'époque, Canalu était hébergé au CNES, à l'époque où il était géré par le CERIMES. Voilà. Donc, quelques exemples d'organismes qui archivent chez nous. L'ABES, c'est pour les thèses. Percé, je l'ai dit, c'est pour des revues numérisées. HAL, bon, je ne présente pas, tout le monde connaît. Pour l'INRAP, ce sont des rapports de fouilles archéologiques. Pour l'INSERM, ce sont toute la production communication scientifique. Vous voyez la Cour des comptes au milieu. La Cour des comptes qui n'est pas forcément un organisme enseignement supérieur et recherche, c'est vrai. Mais quand la Cour des comptes vous demande un service, vous dites oui. Donc on assure la conservation des archives intermédiaires pour la Cour des comptes et les chambres régionales. Et d'ailleurs, les premières archives intermédiaires dont la durée d'utilité administrative arrive à échéance s'annoncent pour 2020 ou quelque chose comme ça. Donc à partir de 2020, on va pouvoir faire les premiers versements vers les archives nationales de ces archives intermédiaires. D'autres dispositifs qui permettent un archivage au CNES, et notamment avec la très grande infrastructure de recherche Humanum. Donc Humanum, qui est spécialisé dans le numérique pour les sciences humaines et sociales. Comme je vais vous le montrer, mettre en place un projet d'archivage électronique, ce n'est pas forcément très facile. Il y a des flux financiers qui sont requis, Et Humanum peut être un facilitateur là-dedans, c'est-à-dire qu'ils vont assister des institutions, je ne dirais pas de taille modeste, mais de taille plus petite que des plus grosses institutions comme l'INSERM, le CNRS ou l'INRA, et assister des laboratoires ou des institutions à mettre en place ce projet d'archivage et le concrétiser au CINES. On contribue aussi dans des projets européens qui visent à mettre en place des grilles de données et d'archivage, alors notamment un projet européen qui s'appelle EDAT, et pour lequel on a mis en place un programme d'archivage d'herbier dans des muséums d'histoire naturelle en France, par exemple, avec des volumétries assez conséquentes, puisque dans ce cas-là, on parle de 40 téra avec une montée en charge qui va arriver jusqu'à 400 téra. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des dispositifs d'assurance qualité lorsque on recevait des archives à préserver. Comment ça fonctionne ? Il y a plusieurs étapes qui vont mener à... au stockage d'une archive au CINES. Il y a la réception, il y a le contrôle qualité qui va être fait sur les archives que vous déposez. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se fait à trois niveaux. On va vérifier que les métadonnées descriptives du document sont bien là. On va vérifier que les formats que vous utilisez pour votre dépôt sont bien conformes. Et ce n'est qu'à ces conditions-là qu'on va accepter ces documents. Pourquoi est-ce qu'on vérifie que, par exemple, les formats sont bien conformes ? Parce que, comme je vous ai dit, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, on va peut-être convertir vos documents vers un nouveau format. Aujourd'hui, on prend par exemple du format PDF. Il n'y a rien qui dit que dans 40 ans, 50 ans, PDF existera encore. Ou alors, il aura peut-être évolué vers de nouvelles versions qui impliqueront que les versions les plus anciennes doivent être converties. Sauf que... si vous m'avez dit que c'est un document au format PDF que je vous dépose et que ça n'en est pas un, je me retrouve le bec dans l'eau. Je ne peux pas le convertir. Or, je m'engage par contrat à garantir la lisibilité de vos documents. Donc pour ça, a priori, au moment du versement, je vais contrôler le format. Et si votre format n'est pas bon, je vous renvoie le document. Alors c'est un peu vache parce que si vous m'envoyez 10 000 documents d'un coup et que je vous renvoie 10 000 documents, c'est un peu dur à corriger. Donc comme le montrait Aurélie tout à l'heure, on a mis en place un outil en ligne qui s'appelle Facile, c'est facile, et qui va vous permettre d'évaluer la conformité d'un fichier par rapport au format qui est déclaré. L'avantage, c'est que si vous avez par exemple une chaîne de numérisation, ça peut vous permettre d'adapter les réglages de vos appareils de numérisation avant de produire une quantité trop importante de documents qui ne seraient pas bons. Donc une fois qu'on a fait ces contrôles qualité, on ajoute un certain nombre d'informations à votre archive, à votre paquet. Ces informations ajoutées, ce sont des informations techniques qui vont nous permettre de contrôler l'intégrité, par exemple. Vous avez ce qu'on appelle du hashing. Vous avez déjà entendu parler de MD5, SHA-256 ou des choses comme ça, qui sont l'équivalent d'une empreinte digitale pour un fichier. Si jamais il y a un octet qui bouge dans le fichier, le code de hashing va changer lui aussi. Donc en fait, il suffit de prendre l'empreinte du document au moment où il est versé, de la recalculer à intervalles réguliers et de la comparer avec l'empreinte initiale. Si elle a varié, c'est que le fichier a été corrompu. Alors comment on va faire pour retomber sur ses pattes si on a un fichier qui s'avère être corrompu? C'est la phase 5. En fait, on fait plusieurs copies d'un même fichier. D'accord ? Vous verrez tout à l'heure, quand je vous présenterai les classes de services, qu'on fait trois copies d'un même fichier quand il est archivé au CINES. Et trois copies qui sont en plus pas au même endroit et pas sur les mêmes supports. Pourquoi pas sur les mêmes supports ? Parce que, lorsqu'il y a obsolescence d'un des supports, si on a tous les fichiers stockés sur le même genre de support, on a autant de migrations à faire. Et ensuite, parce que en utilisant des supports moins rapides, mais aussi sûrs, on diminue les coûts de stockage, bien entendu. Donc en gros, vous avez une copie disque et vous avez deux copies sur bande magnétique. le tout dans des salles machines différentes, voire même dans des lieux géographiques différents. Il y a une copie qui est externalisée dans un centre informatique à Lyon, qui est un des 4 centres nationaux avec le CINES, et qui s'appelle le centre de calcul de l'IN2P3. Donc, une vérification périodique de tous les documents qui sont archivés pour essayer de détecter des corruptions éventuelles, et puis des migrations, à la fois de support à support lorsqu'on change de technologie, et de format à format lorsque on veut changer, enfin, migrer vers un format plus pérenne. Donc, je vous expliquais la problématique des formats et pourquoi on est obligé de les contrôler au moment du dépôt. Du coup, on a limité le nombre de formats qu'on prend en charge sur la plateforme d'archivage. En gros, il y en a 2, 3, 4 des fois, selon les types de documents, le texte, images, vidéos, et voire données brutes scientifiques. Alors, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on ne sélectionne que des formats qui sont ouverts, publiés, normalisés. Donc, par exemple, tout à l'heure, je voyais le plan de gestion de la MAE avec des fichiers Word. Ça, c'est pas, pour l'archivage, c'est pas possible. Parce que le fichier Word est un fichier propriétaire, on n'a pas les spécifications du format et on n'a pas d'outils qui nous permettent de contrôler si un fichier Word est bien formé par rapport à la norme, au standard Word. Donc vous avez la liste des documents ici, la liste des formats, et donc on a un outil, plusieurs outils qui nous permettent d'identifier et de valider ces fichiers-là. Bon, il s'appelle JOV, Droid, ImageMagick. Et donc, de la même façon, je vous expliquais qu'il y a plusieurs copies qui sont faites d'un même document dans des localisations différentes. Alors, il y a plusieurs niveaux de services qui sont proposés. Le premier, c'est de faire une copie disque, une copie bande, plus une copie vers un site distant. Ça, c'est pour le cas où vous avez besoin de récupérer vos documents, vos archives, potentiellement assez régulièrement. Pourquoi ? Parce que le disque est plus rapide que la bande magnétique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une bande magnétique, comment c'est fichu. Ben, c'est un peu comme une cassette audio avant, ou une cassette VHS. Si votre fichier est au bout de la bande, il faut la dérouler entièrement pour y accéder. Donc il faut du temps pour dérouler toute la bande. Donc potentiellement, c'est 10 fois plus lent qu'un disque dur, où sur un disque dur, vous avez une tête de lecture qui peut se déplacer très très rapidement sur le disque et accéder à l'information quasiment immédiatement. Donc selon le niveau de service que vous souhaitez avoir, avec un niveau, enfin, une vitesse de restitution plus ou moins rapide, vous allez choisir le niveau 1 ou le niveau 2, où on n'a que des copies sur bande magnétique. Ensuite, comment est-ce qu'on met en place un projet d'archivage ? On ne vous laisse pas tout seul. Un projet d'archivage, c'est pas on vous donne un login sur la plateforme et puis vous vous débrouillez à déposer vos documents. Non, ce n'est pas tout à fait comme ça. Idéalement, s'il y a un archiviste dans votre institution, eh bien, il ou elle va discuter avec les archivistes du CINES et on va regarder votre plan de gestion, votre plan de classement et adopter la meilleure granularité pour les versements. Donc il y a plusieurs phases, plusieurs étapes pour la mise en œuvre d'un archivage. Une phase préliminaire où on discute sur la faisabilité et la granularité des versements. Une phase de définition puis de validation où on va mettre en place techniquement tout ça et après on valide et on transfère. Je disais tout à l'heure qu'on avait au CINES l'agrément du service interministériel des archives de France pour la conservation d'archives publiques intermédiaires. C'est vrai, mais pas que. On a toujours eu une préoccupation de valider tous les choix d'assurance qualité qu'on mettait en place. Et pour ça, on a obtenu plusieurs certifications, essentiellement étrangères ou européennes. Vous en avez une liste ici. Par exemple, on a participé à l'élaboration d'une norme ISO, qui est le numéro ISO 16363, pour valider le bon fonctionnement d'une plateforme d'archivage électronique. Je passe sur tous les dispositifs de sécurité de données avec protection des accès physiques et logiques. Le CINES, c'est ce qu'on appelle une ZRR, une zone à régime restrictif. En gros, c'est un peu comme à Fort Knox. On ne rentre pas comme ça. Il faut avoir un badge, il faut s'être identifié. Enfin, voilà. Il y a pas mal de sécurité physique et logique. On ne peut pas avoir accès à la plateforme d'archivage en claquant des doigts. Il faut décrire son système informatique. On doit donner la liste des adresses IP qui vont se connecter à la plateforme, des choses comme ça. Tout ça est validé par un organisme national qui s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et qui a déjà fait, par exemple, un audit au CINES pour garantir que les dispositifs de sécurité qui étaient en place étaient bien efficaces. Il n'est pas question, par exemple, que quelqu'un puisse se connecter sur la plateforme et détruire des archives qui ne lui appartiennent pas, ou s'introduire physiquement dans le CINES. Par exemple, dans les salles machines, où il y a du matériel hébergé, les gens qui viennent gérer le matériel qu'on héberge pour eux ne peuvent pas accéder à la plateforme d'archivage. Elle est soit dans une salle séparée, soit entourée de grilles qui interdisent l'accès. Donc, tous ces dispositifs impliquent quand même une infrastructure derrière qui est assez conséquente. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait 1400-1500 mètres carrés de salles machines. On a aussi des lignes EDF redondantes au cas où il y ait des coupures électriques. On a un groupe électrogène de 1,7 MW, je crois, quelque chose comme ça, qui nous permet de continuer notre activité même en cas de coupure électrique, s'il y avait une coupure générale. On a une autonomie de 12 heures ou quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il faut faire revenir une citerne de fuel toutes les 12 heures pour pouvoir continuer l'activité. Et puis, au-delà de l'infrastructure elle-même, on a surtout développé une expertise au niveau de la préservation numérique, puisqu'il y a deux archivistes dans mon équipe. Il y a des ingénieurs qui sont spécialisés dans les formats de fichiers, dans les transferts réseau, etc., etc., et qui peuvent accompagner les organismes qui souhaitent préserver leurs données. Voilà, je ne reviens pas. Enfin, j'ai déjà parlé de ça. Ça ne sert à rien que je m'attarde dessus. Voilà. Si vous avez des questions...